Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler du numérique. Combien de fois ai-je entendu dire « Oui, mais tu te rends compte de l'empreinte du numérique ?» Souvent, c'est quand on commence à parler de choses qui fâchent comme la voiture, l'avion, la piscine privée, l'alimentation hautement carnée, etc. Technique éprouvée, sortir la cape rouge du torero, l'agiter pour dévier vers un sujet tout aussi important, mais qui nous concerne moins. Mais de quoi parle-t-on quand on dit numérique? Certainement d'un peu de tout, car il s'est infiltré partout. De la puce RFID en grande surface pour éviter les vols, à la voiture tout électronique, en passant par la lecture du journal. Notre vie est plongée au cœur d'un réseau informatique où les bits s'entremêlent. Et si on l'évoque dans les conversations environnementales, c'est pour pointer du doigt les ressources que cela mobilise. Des matériaux pour construire tous ces équipements à l'énergie qui les fait vivre. Commençons par parler de l'empreinte carbone de ces équipements. Elle est évaluée entre 3 et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Une valeur souvent comparée aux émissions du secteur aérien. Attention toutefois, car pour le secteur aérien, il existe deux chiffres. Les émissions de gaz à effet de serre d'une part et le double environ qui lui représente la part de l'aérien dans le réchauffement climatique. Car il existe des effets additionnels comme les traînées de condensation. Des effets additionnels qui jouent pour moitié dans le pouvoir réchauffant des avions. Une autre comparaison du numérique, le numérique a une empreinte équivalente à celle d'un pays comme le Japon. Mais d'où viennent ces émissions? Il existe des disparités entre les pays, mais aussi entre les études. Car certaines mettent derrière le mot « data center » l'énergie pour les faire fonctionner et la fabrication des équipements. D'autres distribueront différemment les postes de comptabilité. Néanmoins, on peut retenir qu'environ 2/3 des émissions proviendraient de la fabrication des équipements. Un petit quart proviendrait de l'utilisation des équipements. Un gros quart serait émis par les équipements de stockage, dont les fameux data centers. Et un peu moins de 10% proviendrait des infrastructures réseau. Mais on comprendra aisément que ces distributions n'ont pas forcément d'intérêt, car elles sont interconnectées. Le stockage ne sert à rien si le réseau ne fonctionne pas et ne permet pas d'envoyer une vidéo à l'autre bout de la planète. Idem, le smartphone n'a aucun intérêt si derrière il n'y a pas de data center pour héberger les données des applications. Une étude de l'ADEME, en partenariat avec l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, classe différemment les impacts et est tout aussi intéressante. Elle classe donc les différents impacts ainsi. Premièrement, quand on s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie, si les data centers contribuent à hauteur de 16%, le réseau représente 5%. Par contre, les équipements individuels, smartphones, ordinateurs, etc., pèsent 79% des émissions. Ce sont donc nos équipements personnels qui sont le plus impactants. Et plus intéressant encore, si l'on découpe le cycle de vie, on constate que la fabrication des équipements pèse 78% des émissions, quand la distribution pèse 1% et l'utilisation 21%. En d'autres mots, à partir du moment où on a acheté la capacité à utiliser des données, la majorité de l'impact a été déjà faite à hauteur de quasiment 80%. Les 20% restants étant uniquement liés à l'utilisation. Intéressons-nous au nombre d'équipements, des chiffres à dormir debout. Toujours selon l'ARCEP et l'ADEME, en 2020, on comptabilisait en France 800 millions d'équipements utilisateurs, soit 11 par personne, 63 millions de télévisions, 70 millions de smartphones et 59 millions d'ordinateurs portables, 110 millions de stockage externe comme les disques durs externes, les clés USB et 245 millions de petits objets connectés. 245 millions, rien que ça. Mais comme ils sont petits, ils génèrent finalement peu d'émissions. 4% de l'empreinte totale. En fait, ce sont les ordinateurs portables, les ordinateurs tout court, les smartphones et les télévisions qui pèsent de manière quasi égale et qui dominent, représentant à eux seuls la moitié de l'impact numérique. Ce qui nous amène à la problématique des ressources. Chaque année, en moyenne, pour ses usages numériques, un Français induit 300 kg de déchets et induit l'utilisation d'une tonne de matériaux. Ces matériaux, que ce soit du pétrole, de l'eau, de la terre ou d'autres matériaux. Pour fabriquer un seul ordinateur, il nous faut des métaux ferreux et non ferreux et des terres rares. De quoi se balader dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Aluminium, cuivre, cobalt, tantale, argent, or, indium, palladium, yttrium, gallium. Puis pour les autres métaux considérés comme des terres rares, dysprosium, praseodym, déodym, gadolinium, cerium, europium, lanthane, terbium. Et sans oublier également les plastiques. Au final, pour fabriquer un seul ordinateur portable de 2 kg, il faut brasser un peu plus d'une demi-tonne de matériaux et 250 kg d'énergie fossile. À cela s'ajoute 1,5 tonne d'eau qui seront mobilisées dans les processus d'extraction ainsi que 22 kg de produits chimiques. Une extraction minière qui pollue les eaux et les sols. Quant à la production du matériel informatique lui-même, on considère qu'il faut entre 10 et 20 000 litres, donc entre 10 et 20 mètres cubes, d'eau pour les différents traitements. De l'eau qui souvent est extrêmement pure pour fabriquer notamment les micropuces. Car chaque micropuce requiert quelque 30 litres d'eau pour nettoyer le silicium qu'elle contient. Un téléphone portable, c'est 1000 litres environ, soit 1 mètre cube. Ça fait lourd dans la poche quand même. En première approximation, on considère que l'empreinte est proportionnelle à la taille de l'écran. Un autre élément qui importe quand on parle de l'empreinte d'un objet, c'est sa durée de vie. Si en moyenne un smartphone a une durée de vie de 2 à 3 ans, une télévision aura une durée de vie autour de 8 à 10 ans. Et de plus en plus, c'est la mode quand ce n'est pas l'obsolescence plus ou moins programmée qui se charge de rendre l'équipement hors d'usage. Si l'on peut faire quelque chose dans le cas de la mode, en refusant de se plier aux injonctions de la publicité, il est plus difficile de faire de même pour l'obsolescence. Elle est programmée dans le sens où elle est prévue dès le départ, soit parce que l'équipement tombe en panne au bout d'un moment, soit parce que le numérique évoluant, la plateforme n'est plus apte à afficher les contenus. Pour y faire face, on peut choisir ces équipements en fonction de leur simplicité, de leur réparabilité. Par exemple, demander comment l'ouvrir, si ce sont que des vis ou si c'est de la colle qui a de bonnes chances d'arracher tout. Voir s'il est facile de changer la batterie. Pour ce qui concerne l'obsolescence des programmes, il se trouve que la machine ne va pas pouvoir suivre les évolutions des logiciels toujours plus gourmands en ressources. Car les développeurs ne s'évertuent pas à simplifier les programmes, à les rendre de plus en plus efficaces, mais à les complexifier. Au bout d'un moment, votre logiciel sera incapable de se mettre à jour et, pour des raisons de sécurité, ne sera plus connectable au réseau. Il existe des parades. La plus simple étant d'installer du logiciel libre comme Linux ou Ubuntu sur les ordinateurs portables. Pour leur donner une seconde vie, ils seront bien plus rapides que sous Windows et c'est pas particulièrement compliqué. Pour les smartphones, c'est possible mais c'est beaucoup plus compliqué car chaque version d'OS, Android par exemple est un OS, doit être adaptée à la machine qui le fait tourner. Il faut donc créer du code pour qu'il fonctionne sur votre propre machine, sur votre propre smartphone. Et cela, les constructeurs, au bout d'un moment, arrêtent de le faire. Il faut alors faire ce que l'on appelle flasher une custom ROM, une opération qui est loin d'être évidente. Du coup, on jette le smartphone. Quel monde moderne ! Au-delà de ces chiffres, ce qui est tout aussi inquiétant, c'est la tendance. L'usage du numérique est exponentiel. Selon un pré-rapport de la mission Information sur l'empreinte environnementale du numérique du Sénat, les émissions en gaz à effet de serre du numérique pourraient augmenter de manière significative si rien n'est fait pour en réduire l'empreinte. Plus 60% d'ici 2040, soit 6,7% des émissions de gaz à effet de serre nationales. On trouve même des chiffres encore plus importants. Plus 190% d'empreintes carbone à l'horizon 2050, d'après différentes études, notamment celle de l'ARCEP que l'on a déjà citée.
Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby,
un nouveau message.
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis. Baby,
vous écoutez toujours CFM et aujourd'hui nous parlons du numérique. Mais en fait, pourquoi utilisons-nous le numérique ? Une étude du Shift Project sur la base de données produite notamment par Cisco, un grand fabricant de matériel réseau, cette étude montre que 80% du trafic Internet est de la vidéo. Le reste, 20% du trafic, est constitué par des échanges de données simples, les emails, des données brutes diverses, des photos. 80% c'est donc de la vidéo. Et de l'ensemble des données qui transitent, 20% est de la vidéo comme de la télévision, les visios, les vidéosurveillance. 34% c'est de la VOD, de la vidéo à la demande, les films que l'on regarde. 21% ce sont les clips illustrant de la musique. Et pas moins de 27% du trafic total Internet, c'est de la vidéo pornographique. Entre un quart et un tiers de notre activité sur Internet. En fait, quand on parle du numérique, on confond des choses bien différentes. Regarder des clips, le chat qui tombe de la fenêtre ou de la pornographie, on peut se demander en effet si c'est bien là une marque de progrès. Par contre, consulter les archives nationales de n'importe quelle bibliothèque, consulter des rapports scientifiques, échanger sur des thèmes de philosophie ou autres avec des gens ayant des cultures très différentes, cela peut être quand même un point positif, non ? Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, contient dans sa version anglaise l'équivalent de 3400 volumes d'une encyclopédie papier comme Universalis. Si on parle de la version française, Wikipédia pèse à peu près 850 volumes d'une encyclopédie papier. Et le tout bien à jour. Et cela tient sur un DVD. Oui, 4,4 gigaoctets de données. N'importe quel film Netflix en Full HD ou 4K pèsera au moins 10 fois plus que de télécharger toute la base de données de Wikipédia. Mais que faire ? Participer à la rédaction de Wikipédia ou tout autre média ouvert, mais surtout, systématiquement changer le paramétrage de la résolution des vidéos. Non seulement, souvent la résolution est bien trop importante par rapport à ce que votre écran est réellement capable d'afficher, mais aussi, vous ne verrez franchement pas beaucoup de différence dans bien des cas. D'autant que, pour la plupart des cas, on ne regarde pas des paysages sublimes, mais des vidéos dont le nombre de pixels n'apporte pas grand-chose. Enfin, on peut aussi se contenter du son, qui, pour bon nombre de programmes, est amplement suffisant. Le numérique, ça pollue, mais surtout ce pourquoi on s'en passerait largement. Mais le numérique n'a pas que des impacts sur notre environnement, que ce soit le dérèglement climatique, les pollutions chimiques, l'extraction de ressources minières et aquifères. Il a aussi un impact non négligeable sur la santé physique et mentale. Récemment, en Chine, l'État a interdit le fonctionnement d'applications la nuit pour que les jeunes puissent se reposer et non rester scotchés à leurs écrans. Les écrans, les claviers et autres provoquent des troubles musculo-squelettiques. L'addiction aux produits du numérique, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, a un impact sur notre stress, sur notre sommeil. De plus, l'exposition à la lumière bleue des écrans aurait un impact qui retarderait l'endormissement. L'ARCOM, ex-CSA, est d'ailleurs clair. Avant 3 ans, pas d'écran. Il est écrit noir sur blanc, la télévision n'est pas faite pour eux. À cet âge, l'enfant a besoin d'apprendre à se repérer dans l'espace et le temps. Ce que la télévision ne leur permet pas, c'est un élément en deux dimensions. Les associations pédiatriques ont élaboré un certain nombre d'infographies sur le sujet. Avant 3 ans, pas d'écran. De 3 à 6 ans, les enfants ont besoin de découvrir leurs sens et leurs dons manuels. Tout au plus, il n'est recommandé que de regarder en famille certains programmes. De 6 à 9 ans, il découvre les règles du jeu social. On peut donc lui expliquer les règles de fonctionnement de ses moyens d'information. De 9 à 12 ans, l'enfant peut comprendre les complexités du monde. Il est temps de lui apprendre à se protéger. Et ce n'est qu'à 12 ans qu'il sera à peu près autonome, moyennant qu'il maîtrise la compréhension de l'outil, de ses atouts, mais aussi de ses failles. Enfin ça, ce sont juste les recommandations des sociétés de pédiatrie, celles qui, à première vue, sont là pour protéger les enfants.
J'ai une télé, 4 téléphones, une tablette et un ordinateur.
J'ai 2 ordinateurs, 5 téléphones, je ne sais plus, une tablette et une tablette que je n'utilise pas très souvent, mais qui est chez ma grand-mère.
J'ai 2 télés, 4 téléphones, une tablette et un ordinateur.
J'ai oublié de dire que j'ai commandé un nouveau ordinateur.
Et pour finir, face au numérique, il y a une autre piste à creuser. Notre résilience face à l'utilisation massive du numérique, car il peut nous faire perdre des savoirs cruciaux. Certes, faire des additions à tout bout de champ n'a rien de passionnant. Connaître la table des carrés jusqu'à 20 n'a qu'un intérêt minime. Par contre, pourquoi confier à une machine les calculs les plus élémentaires ? Ne serait-ce qu'au marché ? La bonne vieille balance Berkel avec son large cadran à aiguille suffit largement pour peser des patates et des carottes. Et si on ne veut pas se compliquer la vie avec des virgules, il suffit de rajouter une pomme de terre ou du persil pour que le client ne se sente pas floué par le décompte. Au final, on n'aura pas perdu du temps à calculer au centime près, on n'aura pas collé d'étiquette sur le sac, on peut d'ailleurs mettre les patates directement dans le panier, sans sac. On ne perd pas de temps à scanner l'étiquette, puis à sortir une autre étiquette qui rappelle le décompte avec je ne sais combien de mètres de papier thermique au bisphénol A ou S ou un autre produit chimique et avec au dos de la colle diverse et avariée. Au marché, Michel, lui, il utilise un papier et un crayon. Et on s'en sort toujours moins cher qu'au supermarché, avec le sourire en prime et de bons produits dans le panier. Il faut juste avoir le temps, car Michel, il est bavard, mais du temps, pour ce genre de choses, on en a.
On veut du green.
Rubrique greenwashing. Delta Airlines, une compagnie aérienne américaine, a publié une publicité qui dénonce le gris de nos vies et de nos villes et promeut les couleurs de la vie à l'autre bout de la planète, avec des images de sous la mer, avec des baleines et sur Terre dans des quartiers animés. Tous les clichés du greenwashing et du social bashing vert. Qui plus est, avec un clin d'œil, car visiblement, bon nombre de ces images sont des images de synthèse. Comme si le vrai monde était un cliché de réalité virtuelle programmée à l'occidental selon des goûts occidentaux. Une publicité qui en dit long sur l'état de notre monde, un monde moderne, annihilant et finalement assez fade et gris, on le concède.
N'écoutons pas les Khmers verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'était Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. la situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre, moins 2, pas de dépouillement, l'eau, la terre, on a un seul monde pour nos enfants assurément, l'eau.